La première.
Oui.
Oui, oui.
Par où dire ?
Parce que le tison.
Dis-moi. Par où dire ? Time Rewind, retour en archive sur la place des femmes. Time Rewind, c'est l'histoire qui se raconte sans voix off ou presque. Écriture, réalisation, montage et musique. Guillaume Istas, mixage, Vincent Venet, en partenariat avec la Sonuma.
Et puis les langues se délient dans le grand monde du cinéma. Le scandale sexuel autour du producteur Harvey Weinstein prend de l'ampleur.
Mais tout d'abord aux États-Unis, le producteur de cinéma Harvey Weinstein est sous le coup de nouvelles accusations de viol.
L'affaire Weinstein n'en finit plus de prendre de l'ampleur.
La liste des victimes s'allonge, le dossier d'enquête est aussi de plus en plus fourni.
Quand j'ai fini mon scénario, j'étais bien sûr nerveuse et il n'arrêtait pas de me demander de le regarder se masturber.
Il est sorti de la salle de bain, il était en peignoir et il m'a demandé de lui faire un massage.
Ce qu'il veut, c'est que je sois sa maîtresse. Comme s'il me proposait un deal.
Une scène de harcèlement qu'auraient vécu de nombreuses actrices qui sortent du silence, à l'instar d'Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Emma Decaune, Judith Godrej.
Ça m'attriste de voir comme les gens font semblant que c'est quelque chose de nouveau, de dingue.
Le grand déballage ne fait peut-être que commencer.
Balance ton porc, balance ton porc, balance ton porc, hashtag balance ton porc, près de 150 000 tweets en 3 jours.
MeToo, balance ton porc, deux hashtags qui symbolisent la libération de la parole des femmes sur les actes sexistes dont elles sont victimes.
Petites histoires de harcèlement ordinaire, dans la rue, dans le métro et beaucoup au travail.
Le nombre de plaintes pour harcèlement qui est en augmentation.
Dix mille personnes ont donc marché ce dimanche à Bruxelles contre les violences envers les femmes.
Autre manifestation très tendue à Bruxelles, celle-là. Hier soir, une bonne centaine de féministes s'étaient rassemblées dans le centre-ville avec un slogan.
L'agresseur, c'est toi ! L'assassin, c'est toi ! Le violeur, c'est toi ! Révolution ! Révolution ! Révolution !
Who take us to the time when nobody ever has to say me too again.
Axel Hotel présente Time Rewind. Un voyage temporel en quête des racines du présent. Une série radiophonique de Guillaume Istas.
Alors, comment se compte à rebours ?
Aujourd'hui, retour sur la condition de la femme. Publication du deuxième sexe par Simone de Beauvoir.
Claudine Chonnaise vous présente l'actualité du livre.
Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple.
c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme.
Vous disiez donc, garçon, qu'est-ce que vous attendez des filles ? C'était quoi ?
Femme ménage. Par exemple, quand l'homme va travailler, c'est la femme qui s'occupe de ranger, de faire la vaisselle, de nettoyer. Et l'homme s'occupe pour nourrir la famille.
Qu'est-ce que c'est pour toi, une femme ? Quand tu seras grande, qu'est-ce que tu auras envie de faire ? Qu'est-ce que tu feras dans ton ménage ?
Je laverai, je nettoierai, je ferai la vaisselle.
Et qu'est-ce que tu attends de ton mari ?
Moi, mon mari, j'attends la paye. Voilà, la somme d'argent qu'il doit rapporter.
Pour nourrir la famille.
La femme, pour moi, c'est avant tout la femme au foyer. Pour qu'elle puisse justement se donner entièrement à l'éducation des enfants. Il y a un rôle de mère de famille qui même dépasse tous les rôles que l'homme peut avoir. Moi, le soir, lorsque je rentre le soir quelque peu fatigué et certaines fois énervé. Et ce que je recherche en somme, et ce que je crois l'homme recherche en revenant chez soi, c'est de la détente et une ambiance familiale.
T'as payé les impôts aujourd'hui ?
Tu permets deux secondes, je suis en train de lire le journal et j'ai pas envie de parler de ça maintenant.
Non mais écoute, tu m'excuseras, mais attends, il y a quand même pas mal de choses dont tu dois parler, par exemple le gaz.
Je suis en train de lire le journal. Je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai envie qu'on me fiche la paix, c'est tout.
Quelles sont les modalités d'existence d'un couple ?
Ah, moi je crois que la femme doit être absolument soumise à l'homme.
Totalement.
Totalement.
Vous croyez donc que l'amour dans le chef de la femme implique une certaine aliénation de sa liberté ?
Je crois, mais une aliénation tout à fait consentie, heureuse.
Élégante, vous aimez l'être, et moi aussi. Mais admettons que pour certains travaux, il faut pouvoir sacrifier la coquetterie au confort, s'équiper de manière rationnelle, bref, adopter le costume de l'emploi. Mais quand je parle de sacrifice, j'exagère. Car il est vrai que dans la cuisine, comme au salon, une femme peut et doit avoir du charme.
Et est-ce que votre femme garde le charme qu'elle avait lorsqu'elle était fiancée ? Est-ce qu'elle s'arrange toujours autant ?
Ah, ça c'est un sujet qui a déjà amené quelques petites discussions, parce que moi j'exigeais qu'elle soit toujours aussi présentable, aussi coquette que...
Écoute, toi tu ne peux rien dire là-dessus. Regarde un peu tes cheveux, tu les perds de plus en plus.
Oui, mais enfin, moi je suis un garçon, c'est pas la même chose.
C'est la même chose.
Pourquoi ?
Quoi ? Mais enfin, écoute, je n'en peux rien, premièrement, si je perds mes cheveux.
Oui.
Il existe des produits pour les...
Oui, il y a beaucoup de
produits. Perdre, c'est tout, tu ne fais rien.
Si, on ne va pas discuter là-dessus. Je crois que c'est pas nécessaire, mais... C'est tout à fait normal qu'un mari exige que sa femme soit comme avant, comme il l'a connue. Même si tu as eu deux enfants.
On a moins de temps avec deux enfants.
Ben d'accord, mais il y a toujours moyen de s'arranger pendant la journée.
La femme, en se mariant, reçoit en fief une parcelle du monde. Des garanties légales la défendent contre les caprices de l'homme, mais elle devient sa vassale. C'est lui qui est économiquement le chef de la communauté. Et partant, c'est lui qui l'incarne aux yeux de la société. Elle prend son nom, elle est associée à son culte, intégrée à sa place, à son milieu. Elle appartient à sa famille, elle devient sa moitié. Elle le suit là où son travail l'appelle. Elle est annexée à l'univers de son époux. Elle lui donne sa personne, elle lui doit sa virginité et une rigoureuse fidélité.
Le deuxième sexe. Simone de Beauvoir.
Oh,
Noël. Réussis ton repas, ma chérie.
Et plus de corvée de vaisselle.
Voilà, bien, s'accroche. Bien joli ce soir, ma chère Marianne.
Tout le monde est bien faire la vaisselle?
Non, merci. Mon lave-vaisselle l'a fait pour moi. La soirée est à nous. Corvée supprimée, cuisine toujours rangée, vaisselle étincelante, réception plaisante.
Avec un lave-vaisselle estampillé NF Électricité.
NF Électricité, sécurité et bon fonctionnement assuré.
La femme n'aime pas beaucoup être privée de son rôle de maîtresse de maison qui règne sur tout.
Qui a beaucoup, beaucoup de travail. Et des corvées.
Elle n'aime pas que son mari ait l'impression qu'elle n'a plus rien à faire.
Qu'elle ne sert à rien.
Qu'elle peut être remplacée par une machine.
Oui, mais enfin, le temps qu'on consacre à la vaisselle, on peut le consacrer à autre chose.
Et comment donc? Comment donc? On peut draper une tenture, on peut mettre des fleurs dans un vase, on peut servir l'apéritif à son mari qui rentre, on peut préparer une sauce, on peut faire beaucoup de choses.
Je me suis laissé dire que les lave-vaisselles, c'est un cadeau que l'homme offre facilement à sa femme.
Oui, oui. Probablement parce qu'il évite ainsi de faire la vaisselle lui-même, et puis aussi parce qu'il veut que le travail soit fait avec méthode, et il se dit, pourquoi utiliser une main-d'œuvre chère, parce que
sa femme coûte cher.
Sa femme coûte cher. Pourquoi utiliser une main-d'œuvre chère alors qu'on peut employer un appareil pour faire ce travail-là.
Yvonne se consacre à présent à ses enfants, à son ménage. Elle a le sentiment d'économiser au collectif familial les dépenses des lessives, des repassages, des raccommodages, d'une partie de l'habillement. En échange, gagne-t-elle son pain? À cette question paradoxale, des sociologues tels Chombard de Lowe et Dumas-Di ont répondu. Puisqu'Yvonne consomme sa part de loyer, de nourriture, d'électricité, de gaz, d'habillement, et cette part étant prélevée sur le salaire du mari, les services rendus à la collectivité familiale peuvent être évalués au montant de cette part.
Annette m'a téléphoné tout à l'heure. Il y a une place d'intérimaire à l'école numéro 1. Qu'est-ce que je fais?
Écoute, je pense tout de même que je suis arrivé à un niveau tel dans ma situation que nous n'avons plus besoin de ton traitement pour arrondir les fins du mois, pour les voir venir sans angoisse. De plus, tu sais bien que ça nous occasionne toujours toutes sortes d'ennuis quand tu as un intérim, il faut quelqu'un pour garder la petite, il y a toujours des difficultés. Et ne crois pas que je n'apprécie pas tes qualités professionnelles, au contraire. Mais j'aimerais bien que tu les exerces à la maison, à éduquer notre enfant, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui l'éduque à l'extérieur.
Qui parle ici? Qui a jamais parlé? Qui parle dans les gros livres sages des bibliothèques? Qui parle au Capitole? Qui parle au Temple? Qui parle à la tribune? Et qui parle dans les lois? Les hommes ont la parole. Les paroles des hommes disent toutes la même chose. Notre parole d'homme décide. Le monde est la parole de l'homme. L'homme est la parole du monde.
Parole de femme, Annie Leclerc.
Je me sens de plus en plus, si vous voulez, prisonnière de mon état de femme au foyer. Ça n'est pas suffisant. On a besoin de contact direct avec les gens. Et au fond, je ne vois que mon mari, si vous voulez. Et ça... J'ai besoin d'autre chose.
Qu'est-ce qu'exactement vous voudriez? Qu'est-ce que vous voudriez voir changer dans la condition actuelle ou passée? Car je crois qu'elle est en train de se bouleverser.
Pour moi, ça serait dû à quelque chose de très simple. Il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. Et elles s'en trouveront beaucoup mieux. Et je crois aussi les hommes, puisqu'ils se plaignent bien souvent d'être dévorés par précisément les femmes qui n'ont pas d'autres métiers.
Oui, vous pensez que l'indépendance économique est la condition sine qua non de...
Absolument. C'est à la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société. Et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
L'emploi en Wallonie a diminué.
il a diminué de 11%, ce qui représente 73 000 travailleurs perdus. Alors, le moment n'est sans doute pas encore venu de nous laisser aller à la facilité. Il faudrait, au contraire, rassembler nos forces, mobiliser nos réserves. Mais, dans le domaine de l'emploi, est-ce que nous avons des réserves? Peut-être, le travail féminin.
Les sociologues et les économistes considèrent que l'augmentation du volume de l'emploi des femmes sera nécessaire pour combler les déficits de la main-d'œuvre dus notamment à la prolongation de la scolarité et au vieillissement de la population.
Mais on s'aperçoit vite qu'il faut tout d'abord rencontrer une autre question qui peut s'énoncer ainsi. Est-ce un bien, est-ce un mal que la femme travaille? Il y a vraiment beaucoup de sentiments ou de principes dont je ne veux discuter aucun qui peuvent intervenir dans les réactions du mari. Par exemple, le sentiment de fierté, la fierté de nourrir sa femme, de l'entretenir, de faire en sorte qu'elle ne manque de rien, qu'elle n'ait besoin de rien, et surtout pas de travailler. Ou encore, le principe traditionnel qui veut que la femme n'ait rien d'autre à faire que rester au foyer pour élever les enfants. Ou bien, il peut craindre pour sa supériorité masculine, la femme qui travaille devenant un peu plus indépendante. Mais, pour beaucoup de femmes, beaucoup plus qu'on imagine, la question de savoir si le travail est un bien ou un mal n'a strictement aucun sens. Le travail est pour elle une nécessité.
En Belgique, un travailleur sur trois est une femme. En tout, elles sont près d'un million. 70% travaillent pour vivre.
Femmes seules, filles mères, veuves, divorcées, elles n'ont que ce qu'elles gagnent pour vivre et souvent la famille à charge.
Les métiers dits féminins exigent peu d'efforts musculaires, mais une grande dextérité. Cette dernière qualité s'épanouit dans la plupart des professions féminines traditionnelles. Les tâches féminines comportent en général un nombre moins élevé d'opérations différentes, soit parce qu'elles sont plus morcelées, soit parce qu'elles sont limitées à des travaux d'exécution. Les opérations de préparation du travail, comme le réglage des machines ou des outils, étant rarement confiées à des femmes.
Vous dirigez ici du personnel féminin, vous avez combien de femmes là?
Une cinquantaine environ.
Une cinquantaine. Et est-ce que vous en êtes satisfait?
Oui, en principe oui. Très satisfait.
Quelle qualité leur trouvez-vous par exemple?
Ben, qualité de travail en série, travail de chaîne surtout.
Là. Elles travaillent vite?
Elles travaillent vite une fois la formation acquise. Et elles ont l'habitude sur leur poste de travail, alors elles sont pour ainsi dire imbattables, je dirais bien en vitesse. Oui. Elles travaillent très rapidement.
Quand vous dites qu'elles sont imbattables, vous voulez dire qu'un homme n'arriverait pas à tenir cette cadence-là?
Ah non, non. Pratiquement, la femme est reconnue, n'est-ce pas, pour le travail de chaîne, le travail de série et comme rapidité.
Oui, qu'est-ce qui empêcherait l'homme de tenir ce rythme-là ou de ce genre de travail?
La monotonie, en principe, parce que c'est un travail toujours en permanence qui revient toujours du lundi au vendredi et du 31 décembre au 1er janvier.
Oui, l'homme n'accepte pas ça.
L'homme n'accepte pas, il préfère un travail, un changement qui change plus souvent et un travail de plus de précision.
De ce côté-là, donc, la main-d'œuvre féminine vous est précieuse?
Très précieuse, oui.
C'est plutôt de l'exploitation. Plutôt de l'exploitation parce qu'elle travaille pour un salaire plus bas que le nôtre et elle fait, et elle faut plutôt plus de travail que nous.
Et qui est de beaucoup inférieur?
Oh, oui. Facilement la moitié. Oui, c'est même certain.
On me dit aussi que les femmes acceptent parfois des cadences de travail qu'un homme n'accepterait pas, c'est vrai.
Ça, j'en suis certain, parce que j'ai travaillé dans une tôlerie, et là, je les ai vus travailler, j'y ai même travaillé moi-même, je me suis fait mettre dehors de cette tôlerie, parce que je n'acceptais pas ces conditions de travailler. On leur met des pièces, deux machines, une à chaque côté, alors commence à travailler à l'autre, tout le temps que ce travail l'a fait, elle ressaute sur l'autre, puis elle ressaute sur la première, et ça n'en finit pas. On devient fou là-dedans.
Moi, je dis toujours, les femmes commencent par être obéissantes à leurs parents. Elles sont ensuite obéissantes à leur mari. Et après, elles sont obéissantes à leur contremaître, à leur chef. Ça, on les a tellement éduquées comme ça que c'est pas facile de les changer.
La femme, une sous-prolétaire?
Je crois que le point d'interrogation est de trop. Il est certain que d'après les résultats de notre enquête, on peut affirmer que les femmes sont sous-prolétarisées par rapport aux hommes dans le monde du travail.
Est-ce que vous avez des chances de promotion?
Aucune chance de promotion.
Les femmes n'en ont aucune?
Non.
Quand on est arrivé au plafond, on ne peut pas aller plus loin. Même si on le veut, et même si on le demande, ils ne veulent pas, il n'y a rien à faire.
Sur le marché du travail, hommes et femmes ne sont pas égaux. Les employeurs sont trop souvent satisfaits de cette situation qui leur procure une main-d'œuvre abondante et bon marché. Les employeurs ne sont pas les seuls à profiter de l'infériorité des femmes. Tous les hommes le font, ou presque, qui laissent aux femmes la charge entière du ménage et des enfants.
D'être écartelé entre le travail, l'enfant, le ménage, enfin, et l'envie quand même de voir du monde. D'avoir quand même une vie à soi. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Ça passe vite.
La femme qui travaille, mais qui également est mariée, qui a des enfants, qui a des responsabilités familiales, eh bien, c'est une femme qui a presque, peut-on dire, un triple horaire et qui a des charges extrêmement lourdes.
La plupart des femmes qui travaillent, qui joignent à leur activité professionnelle une activité domestique, se trouvent aujourd'hui dans la nécessité de travailler de 80 à 100 heures par semaine, ce qui est vraiment énorme.
La femme travaille, elle rentre, elle a une double journée, comme vous dites. Et l'homme qui travaille aussi, il rentre, il se met dans son fauteuil, il a ses petites pantoufles et sa pipe. Et la femme, elle peut commencer à faire son ménage. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de raison que l'homme ne vienne pas aider à faire le souper, que l'homme ne vienne pas aider à faire la vaisselle, que l'homme ne vienne pas aider à baigner les enfants.
Dans un monde où tout change, rien ou pas grand-chose ne change dans la condition féminine.
Février 1966, début de la grève des femmes à la FN de Herstal.
C'est ici, à la FN de Herstal, à la Fabrique nationale des armes de guerre, que 3800 travailleuses se sont mises en grève. C'est une grève remarquable, non seulement par sa longueur, mais parce que ce sont les femmes seules qui ont déclenché le mouvement au départ. Que veulent les grévistes? Elles veulent l'application de l'article 119 du traité de Rome. Leur slogan est « un salaire égal pour un travail égal ou équivalent ». À cela, la direction et les organisations patronales répondent ceci: « le rendement de la femme n'est pas nécessairement identique ou équivalent au rendement de l'homme ».
Il me semble qu'on n'est pas considéré de tout les femmes dans la fabrique. Mais ça, on a quelque chose à dire, qu'on ne fait même pas attention à ce qu'on dit, et tout ça, c'est réellement pour dire, vous êtes des femmes, des bêtes, des femmes, et puis c'est tout, en fait, on ne prête même pas attention. Ça me fait mal de travailler à des conditions comme ça. Parce que j'estime qu'une femme, qu'elle travaille à la fabrique, et il me semble que toutes les femmes comme moi, ils travaillent avec amour, et ils essayent de faire leur journée et le mieux possible, qu'on devrait même la considérer. Pour le travail qu'elle fait.
Maintenant, camarades, vous connaissez la nouvelle chanson. Après la réunion, chantez-la. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On continue.
Alors, voilà que les femmes ouvrent la bouche et que leur langue se délie. Désormais, aucune voix d'homme ne parviendra à couvrir ces voix multiples et vigoureuse.
Paris, 20 novembre 1971, première marche internationale des femmes.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Je crois que si les femmes aujourd'hui commencent à se faire entendre, c'est entre autres grâce à la disponibilité que leur donne la contraception, c'est-à-dire le droit de diriger leur destin. Je crois que ce ne sont plus les esclaves de l'espèce comme avant. Il est évident qu'une femme qui avait 10 ou 12 ou 20 enfants, et qui souvent d'ailleurs mourait en couche, parce qu'il y avait un nombre de morts en couche très très important, était indisponible pour la réflexion, pour la pensée, pour la philosophie, et en plus, elles n'avaient pas droit à l'instruction, ce qui fait qu'il n'y avait aucune chance pour qu'elles forment un mouvement organisé et qu'elles éveillent les autres femmes à une solidarité quelconque. Alors qu'aujourd'hui, d'une part, elles ont conquis le droit à l'instruction, qui était la base, et puis maintenant, le droit à la contraception, et je crois que ça leur a tout à coup donné ce luxe qu'est le temps qu'elles n'avaient jamais eu. Ça me semble un des grands tournants de la condition féminine, un peu, toute proportion gardée, comme était l'invention de l'imprimerie pour la culture.
Nous sommes toutes avancées.
Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
C'était le 11 novembre dernier, au passage 44 à Bruxelles. À l'initiative des mouvements féministes, 8000 femmes de toutes les régions du pays se sont retrouvées pour manifester leur mécontentement, leurs inquiétudes, poser des questions. Chacune s'exprimait librement. Ce fut une sorte de fête, avec des débats animés. On discutait contraception, avortement, égalité de salaire.
Nous savons depuis aujourd'hui que quelque chose va changer. Nous savons que nous sommes plusieurs à penser de la même manière. Donnons-nous nos adresses et rencontrons-nous dans les différentes villes pour créer des comités et avoir enfin une action avec des buts bien précis.
Indiscutablement, cette journée a connu le succès. Un succès d'autant plus grand que l'écrivain français Simone de Beauvoir avait fait le déplacement pour apporter aux Belges, aux Allemandes et aux Hollandaises réunies à Bruxelles son soutien et sa détermination de poursuivre la lutte pour l'émancipation des femmes.
Au fond, c'est une lutte que vous menez depuis très longtemps.
C'est-à-dire que sous cette forme actuelle, très militante, je ne la mène guère que depuis un an, j'ai été contactée par le mouvement de libération des femmes françaises et avec elle, alors, j'ai fait différentes actions. La première étant de signer un manifeste qu'on a appelé en France le manifeste des 343, dans lequel nous étions un certain nombre de femmes, quelques-unes connues et beaucoup d'inconnues, qui déclarions nous être fait avorter, de manière à faire un acte un peu provocant qui attire l'attention du public et des autorités sur le problème fondamental, un des plus fondamentaux aujourd'hui touchant le sort de la femme, le problème de l'avortement.
1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.
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 De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
Voilà, j'avais 3 enfants. Et comme j'avais une séquelle de polio, j'estimais que c'était absolument impossible d'en avoir un 4e.
À cause de votre état de santé.
Oui. Et alors, j'ai eu l'adresse d'une dame qui m'a fait ça. chez moi, sur une table de cuisine, comme d'habitude, et alors avec de l'eau savonnée. Enfin bon, je suis arrivée à l'hôpital dans un état assez lamentable.
Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé? Tu t'es fait avorter et...
Bah, je me suis fait avorter à Paris. Ça, je me suis débrouillée toute seule.
Tu es arrivée toute seule avec ta valise?
Je suis arrivée toute seule avec ma valise. Bon, disons que le terme pour définir les filles qui vont se faire avorter, c'est j'ai un ovaire infecté. On passe dans le cabinet du gynécologue. On monte. Ça dure 10 minutes, on se met un spéculum. On prend même pas de gants, c'est le cas de le dire. Vraiment, c'est vraiment, on est traité le plus bactère. On vous monte dans une chambre. On vous traite comme rien du tout. Et puis vous passez sur la table d'opération. Puis voilà. Et ça vous coûte 400 000 balles. Ils ont moralement, ça s'est passé il y a 2 mois, je n'en suis pas encore remise. Le fait qu'après, après l'opération, elle m'a expliqué ce qu'on m'avait fait, on vous a fait un curetage, on vous a décroché le fœtus de cette telle façon, voilà ce que c'était. Moi, dans un petit bocal, il m'a montré le fœtus.
Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que tu lui as demandé?
Mais je pense que c'était pour me punir, en définitive. Je crois que pour lui, c'est ça. Pour lui, j'étais une salope.
Et quelles sont les peines qui sont prévues? Si je comprends bien, c'est interdit.
C'est interdit. L'avortement est poursuivi en Belgique. La femme qui se fait avorter, qui donc y consent, est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans.
Est-ce qu'on n'a quand même pas une idée du nombre d'avortements qui sont pratiqués et poursuivis ou non en Belgique?
Les gynécologues s'arrêtent au chiffre de 80 000. Ils traduisent ça parfois d'une autre manière en disant que 7 femmes sur 10 se font au moins avorter une fois dans leur vie.
On a parlé donc de l'avortement d'une débile mentale qui aurait été violée. Est-ce que la loi ne prévoit pas des cas exceptionnels où l'avortement serait permis?
La loi ne prévoit aucune exception à la répression.
D'actualité, l'avortement, maître Gisèle Halimi, avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur du livre La cause des femmes.
Il y a des centaines de milliers d'avortements en France et je suppose aussi en Belgique. Les femmes avortent, elles avortent dans des conditions dramatiques, abominables. Aiguilles à tricoter, queue de persil, dans des conditions abominables. Ces femmes, elles choisissent d'avorter et elles choisissent tellement fort d'avorter qu'elles vont jusqu'à en mourir, nous le savons. Dans notre association Choisir, nous avons choisi de mettre en exergue ces vers de Paul Éluard. Il ne faut promettre et donner la vie que pour la perpétuer, comme on perpétue une rose en l'entourant de mains heureuses. Ça veut dire au départ un choix, un libre choix, une volonté.
Autre chose, le tribunal correctionnel de Bobigny rendra en début d'après-midi son jugement dans l'affaire de l'avortement de la jeune Marie-Claire. Le 8 novembre dernier, comparaissait devant ce tribunal la mère de la jeune fille et 3 autres femmes accusées de complicité. C'est un jugement important qui va être rendu en raison de l'ampleur qu'a pris ce procès.
La journée d'hier mercredi a été marquée par le jugement de la chambre correctionnelle de Bobigny dans l'affaire de l'avortement de la jeune Marie-Claire. Les juges ont été cléments pour Madame Chevalier, la mère de Marie-Claire, 500 francs d'amende avec sursis. Pour les deux personnes qui avaient servi d'intermédiaire entre l'avorteuse et la mère de Marie-Claire, acquittement pur et simple, pour l'avorteuse, 1 an de prison.
29 novembre 1974, vote par l'Assemblée nationale française du projet de loi dépénalisant l'avortement, porté par Simone Veil.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante,
il admet la possibilité d'une interruption de grossesse.
Pour en finir tard dans la nuit, à 2h30 ce matin, que les sénateurs ont adopté le projet de loi sur l'interruption volontaire de la grossesse au terme de 2 jours de débat. Projet de loi qui devra cependant repasser devant l'Assemblée nationale un certain...
Après des débats passionnés, la loi Simone Veil est adoptée en 1974. L'avortement libre est remboursé par la Sécurité sociale. La Belgique est un des derniers pays européens à réprimer l'interruption de grossesse.
Bien, maintenant on est encore plus entre nous. Dans la voiture, il y avait une phrase qui revenait souvent, les femmes sont toutes des salopes. Est-ce que vous le pensez réellement ?
Les femmes, non, on dit...
Non, tu dis les femmes sont toutes des salopes, tu l'as dit souvent ça.
Les femmes sont... Non, oui, je l'ai dit avec tout le monde, hein, bien sûr, dans la voiture. Mais c'est une phrase toute faite, mais c'est pas... Je le pense pas profondément parce que il y en a, c'est évident, hein, mais...
Tu m'as dit souvent qu'elles aimaient ça. Puis en fond, elles aiment ça, elles aiment se faire violer.
Elles aiment se faire violer, non, elles charrient pas. J'ai pas dit qu'elles aimaient se faire violer.
Ah, si, tu l'as dit.
Elles provoquent souvent le viol, mais un viol qui n'est pas un viol physique, qui est un viol, disons, moral. Quoi.
Ah, non, mais tu parlais du viol physique quand tu as dit ça, non ?
Non, non, ça tu charries. Parce que le viol est un truc profondément dégueulasse. Je trouve ça ignoble. Quand tu vois Liliane a vraiment été traumatisée par cette histoire-là, je trouve ça dégueulasse. Ceci dit, je me mets aussi un peu à la place de son violeur. Je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Le gars dans sa voiture, le soir, elle est belle, Liliane. C'est une belle fille.
Donc elle le cherche. Les femmes le cherchent.
Ne me fais pas dire ça. Elle ne cherche pas.
Elles aiment ça.
Oh, non, écoute, Jean-Marie, elle n'aime pas ça. Mais c'est la nature, qu'est-ce que tu veux ?
Alors, je vais vraiment me faire l'avocat du diable et nous avions jusqu'à présent d'assez bonnes relations, elles vont se troubler. Alors, je me fais là, vraiment, je vais très loin. Il y a des mauvaises langues qui prétendent qu'au fond, certaines femmes, j'ai pas dit les femmes, au fond, ne sont pas si mécontentes que ça d'être agressées.
La condition féminine, son alphabet. Toujours coupable de ce qu'on nous fait. Créature tenue pour responsable du désir qu'elle suscite.
Et qui sont les femmes qui se font violer ?
Celles qui sont imprudentes. Les aguicheuses.
C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants qui font qu'elles se font violer.
Celles qui veulent bien.
Il arrive un moment où elles sont consentantes.
Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme ?
Oui, d'une certaine façon. Ça m'est arrivé.
Ce sont des femmes qui en ont envie, de toute façon.
Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer ?
Je pense oui. Sincèrement, oui.
C'est toléré par la civilisation. On a presque l'air de dire « Ah, c'est un vrai homme, qu'est-ce que vous voulez, c'est un chaud lapin ?» Il y a un accord de la civilisation au viol.
En fait, pour la plupart des gens, un viol, ça n'existe pas. En fait, nous, on va devoir se battre pour expliquer qu'on ne veut pas être violé. Qu'on n'aime pas ça, et même pas inconsciemment.
Ce que je me disais, si je fais la moindre chose contre lui, soit essayer de me défendre ou crier ou quoi, j'avais l'impression que le temps que je le fasse, il allait m'amocher ou bien il allait frapper plus fort. Je sais, enfin, j'avais l'impression que j'allais encaisser plus si j'essayais de faire autre chose. Quoi.
J'en ai jamais osé en parler à personne. Maintenant que j'ai bientôt 72 ans, et bien maintenant, je vous jure que j'en pense encore bien souvent. Il n'y a pas beaucoup de jours qui passent sans que j'y pense encore. ça m'a traumatisé jusqu'au profond, puisque maintenant j'en ai 73. Ça me traumatise encore.
Alors là, il a commencé à vouloir me déshabiller, ce que je ne voulais pas. Je portais un imper, je me souviens très bien que je serrais comme ça. Et puis il a commencé à taper. Et puis au fur et à mesure qu'il tapait, je me suis rendu compte, enfin j'ai vu son visage qui se convulsait, ses yeux qui se révulsaient de plus en plus. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va me tuer. Si je ne me laisse pas faire, bon, ben...
Disons que j'ai beaucoup souffert. J'étais, disons, traînée de psychologue en psychanalyste. Je me suis fait passer, enfin, disons, les gens m'ont fait passer pour folle. J'ai souffert, j'en souffre encore. Psychologiquement, je suis toujours atteinte.
Vous savez, on n'a pas pensé à porter plainte de toute façon. J'en ai pas parlé tout de suite, mais j'ai été très traumatisée pendant tout un temps. D'ailleurs, j'en tremble encore. Et longtemps après, je disais, si j'avais un revolver extra en face de moi, je le tuerais.
Aix-en-Provence, 2 mai 1976.
Ce matin, au palais de justice d'Aix-en-Provence, des réactions de violence parce que ces deux jeunes Belges, Anne et Araceli, violés il y a 4 ans dans une calanque entre Marseille et Cassis, ont osé porter plainte.
Mais je ne vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez.
Vous la bouclez vous d'abord.
Vous êtes qui, vous, la bande de voyous là qui vient?
L'affaire qui est examinée aujourd'hui et demain devant les assises des Bouches-du-Rhône est exceptionnelle. Certains disent historique. C'est le procès du viol. Pour pouvoir exposer leur cas à des juges populaires, il a fallu aux deux victimes, les jeunes Belges Anne Tonglet et Araceli Castellano, ainsi qu'à leur avocate, maître Gisèle Halimi, 4 ans d'opiniâtreté et de courage. Les faits remontent au 21 août 1974. Guy Roger, Albert Mouglalis et Serge Pétrilli se sont acharnés sur la jeune femme pendant 5 heures. Aujourd'hui, qu'ils comparaissent devant la cour d'assises d'Aix, leur système de défense est typiquement classique. Un viol, disent-ils, ne peut pas durer 5 heures sans acceptation de la part de la femme. Ce à quoi maître Halimi va répliquer, faut-il qu'une femme perde la vie au cours de l'agression pour être considérée comme non consentante? Le procès d'Aix ne sera pas seulement celui de l'exemplarité, ce sera aussi le débat de l'interrogation de la société sur elle-même.
Selon les statistiques de la gendarmerie, il y a eu en Belgique 540 viols en 1979 et 750 en 1980. Mais il s'agit uniquement des viols pour lesquels la victime a déposé plainte. Et à côté de ces viols déclarés et connus, il y a tous les autres, les viols quotidiens, si l'on peut dire. Car le violeur n'est pas, dans la majorité des cas, le fou dangereux, le maniaque, l'obsédé que décrit le mythe complaisamment entretenu.
Disons que l'image globale que les gens se font du viol, c'est que l'homme est violent, c'est qu'il a un désir sexuel irrépressible, un désir incontrôlable, et que la femme est une femme provocante qui, s'il n'a pas consenti au viol, au moins l'a provoqué. Ça a pour conséquence qu'une certaine fraction de femmes n'osent pas déposer plainte, notamment quand il n'y a pas de traces de violence épouvantable, quand elles ne se sont pas fait à moitié assassiner pour résister au viol, ce qui induit une certaine image fausse du violeur.
Justement, le violeur, on le prend d'habitude, on le conçoit d'habitude comme un inconnu, comme une espèce de bête féroce qui saute sur sa proie.
Nous pensons, d'après le viol dont nous avons connaissance, que les violeurs sont en majeure partie des proches de la victime et qu'elle a eu auparavant avec lui des relations d'amitié, de camaraderie et également des relations, disons, familiales.
Le viol existe également entre époux Et il culpabilise terriblement la femme. De toute façon, je tiens également à vous rappeler le numéro de téléphone du collectif pour femmes battues. C'est le 230-58-15.
C'était devenu des rapports sans tendresse pour moi parce qu'il me dégoûtait. Il sentait le vin, il sentait l'alcool, mais il fallait subir. Sinon, c'était toute la nuit qu'il faisait des comédies, des sérénades. Alors, pour que les enfants puissent être tranquilles et pour pouvoir être tranquilles, eh bien, il fallait subir.
En Belgique, il n'y a pas de viol entre époux. Il n'est considéré comme viol que le rapport sexuel complet, illégitime, d'un homme avec une femme qui n'y consent pas. Le rapport sexuel entre époux n'est pas illégitime. Par conséquent, il n'y a pas de viol entre époux en Belgique.
Bon, ben, je ne voulais pas parce qu'il avait bu ou alors il me frappait. Vous voyez, c'était déjà un motif, par exemple, il me frappait. D'ailleurs, j'en ai la marque là, vous voyez.
C'était le maître. Moi, on me disait, mon mari me disait, enfin, mes maris me disaient, toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas le droit à la parole, c'est moi le maître ici, c'est moi qui dois prendre des décisions. Jamais je n'avais droit à la parole.
Vous avez été mariée combien de fois ?
Trois fois.
C'était la même chose les trois fois ?
Les trois fois, c'était la même chose.
Ma mère, parce qu'elle était très malheureuse, elle, avec mon père, alors elle me disait, écoute, Fernande, fais comme moi. Sois souple, tu verras que ça se passera. Et en effet, je l'écoutais, puis ça se passait.
On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire et périphérique, en dehors de la sexualité, évitable, comme s'il ne concernait que peu de gens, agresseurs et victimes, comme s'il constituait une situation exceptionnelle, qui ne dise rien du reste. Alors qu'il est, au contraire, au centre, au cœur, socle de nos sexualités.
Vous ne pouviez pas vous permettre de tenir tête à vos maris ?
Non.
C'était des discussions.
C'était tout de même lui qui rapportait l'argent, madame. Ah oui.
Le viol est un programme politique précis, squelette du capitalisme. Il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Il désigne un dominant et organise les lois du jeu pour lui permettre d'exercer son pouvoir sans restriction. Voler, arracher, extorquer, imposer, que sa volonté s'exerce sans entrave et qu'il jouisse de sa brutalité sans que la partie adverse puisse manifester de résistance. Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est la guerre civile, l'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre « Je prends tous les droits sur toi. Je te force à te sentir inférieur, coupable et dégradé. »
King Kong Theory, Virginie Despentes.
Bonjour, permettez-moi d'ouvrir cette émission en vous présentant de la part de toute l'équipe tous nos meilleurs vœux pour que cette année 1990 soit heureuse.
Le féminisme, alors Florence Moreno, vous êtes femme et tous vos livres tournent autour de la femme. Quel narcissisme quand même.
Alors comment ça se fait qu'on a l'impression que le combat féministe n'est plus aussi fort que dans les années 70-70? On a l'impression que les féministes ont quelque peu baissé les armes.
Il y a un féminisme qui est très centré sur le combat.
Et ce féminisme-là, effectivement, hérisse beaucoup d'hommes. Et je constate aussi, ça je voudrais quand même l'ajouter, qu'il hérisse aujourd'hui énormément de jeunes, et je dirais presque plus les filles que les garçons.
J'ai l'occasion souvent de parler de ces thèmes avec des jeunes d'une vingtaine d'années. Et je sais que si on veut ne plus se faire écouter, il suffit de dire le mot féminisme en commençant. Et c'est terminé, toutes les oreilles se ferment, c'est le mot tabou.
Alors, dans ces conditions, est-ce que le combat féministe se justifie toujours ? Une réponse.
Dites, est-ce que vous définiriez comme féministe ?
Oh, quel homme, un homme qui nous pose cette question.
Mais non, évidemment, puis on qui se définirait comme défini.
Moi, je pense qu'à partir du moment où on pose le débat en forme de lutte et de combat, on est déjà à côté de la plaque. Je pense que les femmes n'ont pas du tout envie d'entendre ces mots-là, d'être en concurrence avec les hommes ou en rivalité.
Pourquoi le mot féministe vous fait-il à ce point peur ?
Parce que je pense qu'il y a plus de notre génération.
Non, c'est pas une question de peur, c'est devenu un terme assez connoté qui fait un petit peu combat d'arrière-guerre.
Est-ce que vous êtes féministe ?
Non, pas spécialement. Non, je pense pas. Non. Ça existe encore, ça, le féminisme ?
1er août 2003, mort de Marie Trintignant.
Dans un état désespéré depuis dimanche dernier, Marie Trintignant est morte ce matin dans une clinique de Neuilly. Une autopsie est en cours. L'enquête, selon la justice française, sera élargie à une qualification criminelle. Très nombreux hommages.
Dans cet hôtel, une dispute entre Marie et son compagnon Bertrand Cantat. Marie se cogne violemment la tête.
Marie se cogne violemment la tête.
36 coups.
Marie se cogne.
36 coups.
Marie.
36 coups, 36 factures.
36 coups.
Absolument. Le visage décomposé, comme pour un accident de moto, avec des brûlures aux jambes et aux cuisses, comme quelqu'un qu'on a traîné pour te mettre dans le lit. Et c'est une femme qui meurt doucement d'hémorragie interne. Il l'a tuée.
Chez nous, un homme a été interpellé hier soir après avoir tué de plusieurs coups de couteau son ex-compagne à Berlot, en province de Liège. Dans le village de Finvaux, maintenant près de Houillet, en province de Namur, ce terrible fait divers. Un homme de 35 ans s'est rendu chez son ex-compagne. Il a tiré sur elle l'arme de chasse.
Je vous le disais en titre, à Courcelles, une femme d'une soixantaine d'années est morte la nuit dernière sous les coups de son compagnon.
Mais tout d'abord à Frameries, une femme a été mortellement renversée par son conjoint. L'accident pourrait en fait être un mort.
Une femme a donc été poignardée par son compagnon à Gèves. Elle a été tuée à coups de couteau.
Les Argentins ont un mot pour qualifier ce genre de crime contre les femmes, le féminicide.
Un nouveau féminicide, un de plus, commis cette fois à Trace.
Dans l'actualité, il y a ce féminicide présumé à Flémal, en province de Liège. Un homme est placé sous mandat d'arrêt.
Tout autre chose, à Bruxelles, une jeune infirmière espagnole a été retrouvée morte. Son ex-compagnon l'aurait poignardée. Il s'agirait du 19e féminicide commis.
Depuis le début de l'année, au moins 20 femmes ont été tuées par leur partenaire en Belgique.
Est une révolution. Pas un réaménagement des consignes marketing. Pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme. Il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'appoint.
Féminicide ! Impunité pour l'assassin ! C'est le silence ! C'est le viol !
Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde. Un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes. Mais bien de tout foutre en l'air.
Le capitalisme.
Sur ce, salut les filles et meilleure route.
C'était Time Rewind, retour sur la condition de la femme. Une série radiophonique de Guillaume Istas. Écriture, réalisation, montage et création musicale, Guillaume Istas. Mixage, Vincent Venet. Une production de Axel Hotel en partenariat avec la Sonuma. Avec les voix de Marie Delay et Agnès Limbos. Ce documentaire a reçu le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que le soutien du Fonds Gulliver, une initiative de la RTBF, de la Promotion des Lettres, de la SCAM Belgique et de la SACD Belgique, de la SCAM France et de la SACD France, du Labo à la RTS et de Parouidir à la RTBF, et des podcasts de la RTS et de la RTBF. Un tout grand merci à Pascal Tison, Martina Gozzini, Benoît Dupourcy, Marie Venin et Paola Steven.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.